Salut, je reviens vous parler logement et cette fois-ci, on va se concentrer un peu sur les réformes en cours et à venir. Et évidemment, tout d'abord, il y a le décret que Macron a fait. 6,5 millions de locataires ont perdu 5 euros d'APL depuis octobre grâce à ça. C'est merveilleux. Et ce qui est un petit peu ironique dans l'histoire, si on peut dire ça comme ça, c'est que Macron, le 5 septembre, un petit peu en même temps qu'il annonçait ce décret, il a appelé tous les propriétaires à baisser les loyers de 5 euros par mois pour compenser la baisse des APL. Sauf que, évidemment, dans son décret, il n'a rien mis de contraignants pour les propriétaires. Donc il s'est pas du tout donné les moyens de faire en sorte que cette baisse d'APL devienne une baisse de loyer, hein. Donc c'était un petit peu déclaration en l'air pour sauver la face et puis pour dire non mais c'est pas de la faute du gouvernement si vous payez 5 euros de loyer en plus. C'est de la faute de vos propriétaires qui sont trop méchants. Bah oui, évidemment. Donc voilà, et on peut dire qu'un peu ce décret, c'était, on va dire, pour arrondir les comptes de l'année 2017, parce que finalement, le gros de la réforme, il se fait dans la loi finance de 2018. Et oui, en fait, c'est un petit peu un avant-goût de ce qui se prépare, en fait, et c'est vraiment qu'un début. Donc voilà, on peut enchaîner du coup en parlant de cette fameuse loi finance 2018. Donc elle a été votée il n'y a pas très longtemps. Donc, comme son nom l'indique, cette loi, elle prévoit plein d'orientations niveau finance. Donc, ça parle de plein plein de choses, hein, évidemment. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je peux citer quelques sujets abordés par cette loi. Et du coup, si vous avez envie de la décortiquer, de vous y intéresser, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets sur lesquels il serait bon de travailler et probablement d'informer et de lutter, mais bon voilà. Donc, par exemple, cette loi, c'est aussi elle qui supprime l'ISF, l'impôt sur la fortune, hein, et qui le remplace par un impôt qui prend en compte seulement les biens immobiliers. Bref, c'est aussi cette loi qui prévoit la hausse de la CSG, la cotisation sociale généralisée, si je ne m'abuse, et qui du coup risque de baisser en fait le pouvoir d'achat des retraités. C'est une loi du coup qui prévoit aussi une réforme de l'allocation adulte handicapé, une réduction de la durée de versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile, l'introduction d'un jour de carence pour la prise en charge des congés maladie des personnels du secteur public, etc., etc., etc. Il y a plein plein d'articles dans cette loi qui sont pas très réjouissants, mais voilà. Et donc nous, la partie qui nous intéresse, c'est l'article 52 qui réforme du coup les aides au logement et la politique des loyers dans le parc social. Voilà, rien que ça. Donc cette loi, ce qu'elle prévoit, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est une baisse de 50 à 60 euros des APL des personnes en HLM. Donc finalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que ça équivaut à une ponction de 1,4 milliard d'euros annuels sur le budget des HLM, parce que finalement, les aides au logement, c'est comme des aides un peu indirectes qui financent le logement social, enfin en tout cas pour ces APL des locataires en HLM là. Donc voilà, c'est comme si le gouvernement il faisait une coupe budgétaire de 1,4 milliard par rapport au logement social, alors qu'il y a 1,4 million de ménages en France qui sont toujours en attente d'une attribution de logement en HLM. Donc voilà, on a déjà des listes trop longues, beaucoup trop de demandes par rapport au nombre de logements disponibles, pas assez de constructions par rapport aux quotas qui sont normalement imposés aux villes et tout. Et le gouvernement, lui, il décide de moins financer les HLM, quoi. Super. Bon, via les APL, d'accord, mais enfin, ça change pas grand-chose. Après, concrètement, pour les locataires HLM, normalement, cette loi, elle prévoit que la baisse soit, du coup, comment dire, soutenue par les bailleurs, c'est-à-dire que ce soit pas répercuté sur les loyers des gens. Maintenant, je sais pas trop si ce sera vraiment le cas, dans le sens où les bailleurs, ils étaient pas très très contents, contre Macron, ils se sont pas mal battus. Et je me demande s'ils n'ont pas obtenu un peu un truc d'assouplissement par rapport à ça. ce qui n'augure pas forcément bien en fait pour les locataires HLM quoi. Donc on verra bien. En tout cas, si vous êtes locataire HLM, je vous conseille moi de bien vous tenir au courant, de bien vous renseigner, de vous rapprocher des syndicats de locataires s'il y en a par chez vous, ou de vous organiser avec vos voisins voisines, et puis de demander des informations directement au bailleur aussi. Enfin, moi je sais que je suis en HLM et que mon bailleur m'envoie aussi un peu des infos par rapport à tout ça. Et donc voilà, pour savoir un peu quelle politique il va appliquer, et puis le cas échéant, s'il faut se battre, mettre la pression, ou en tout cas au moins demander à nos bailleurs de ne pas augmenter nos loyers, parce que si on a les APL, c'est pas pour rien, c'est qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, si on veut vraiment pas que nos loyers augmentent, il va falloir peut-être que... Enfin, en tout cas, il va falloir, c'est sûr, qu'on soit vigilant, et peut-être il va falloir aussi s'organiser et se battre, hein, c'est possible. En tout cas, voilà pour la réforme HLM. Si ce que j'ai pas dit non plus, c'est que finalement, ce que ça risque de provoquer aussi, cette baisse des APL pour les HLM, bah, c'est tout simplement que les bailleurs sociaux veuillent plus trop attribuer des logements aux personnes qui sont bénéficiaires d'APL, quoi. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que les HLM attribuent des logements plutôt aux personnes plus riches, quoi. Même si les HLM, c'est sur critères sociaux aussi, qu'il y a des plafonds et tout ça, que c'est quand même que pour les personnes les plus pauvres. Mais enfin, ça reste une fourchette assez large, en fait. Et il y a beaucoup de gens en HLM qui ne touchent pas d'APL, quoi. Donc là, ça pourrait privilégier l'entrée des gens qui ne bénéficient pas d'APL. Donc, ça voudrait dire exclure encore une fois les plus pauvres du logement social, ce qui est quand même une aberration. Et en plus, le gouvernement, il dit exactement le contraire, hein. Lui, il dit, mais non, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire, au contraire, mais sauf que, ben, en fait, il met une politique qui risque quand même d'aboutir à ça. Donc là, ça s'appelle l'hypocrisie du gouvernement, quoi. Et alors, pour finir avec la loi finance 2018, ça a beau être une loi sur le budget 2018, elle prévoit aussi déjà des trucs pour 2019. À savoir en fait que ce qui a été annoncé, c'est 1,5 milliard d'euros de coupes budgétaires sur les APL supplémentaires l'an prochain, donc sur 2019. Ça ferait qu'en 2019, on arriverait à 3,2 milliards de coupes sur les APL. Donc vous vous rendez compte, 3,2 milliards, c'est vraiment énorme. Et donc ça veut dire que voilà, là, ce qui est annoncé sur le logement social, sur la baisse des APL du logement social, c'est vraiment qu'une partie en fait de toutes ces coupes qui vont avoir lieu. Donc 2018 et 2019, puis sûrement tout le mandat de Macron, ça va être encore beaucoup, beaucoup de coupes sur les APL. Bon, via des réformes, des remises à niveau de barème, machin, dont on ne sait pas encore quelle forme elles vont prendre. Mais les 5 euros, c'était vraiment qu'un début, en fait. Ça risque d'arriver encore, et ce ne sera peut-être pas 5 euros seulement, et ce ne sera pas forcément que pour les gens qui sont à HLM, clairement. D'ailleurs, dans la ponction de cette année, c'est-à-dire 1,7 milliard d'euros en moins sur les APL, donc dans cette loi 2018, ça comprend la baisse des APL sur les HLM, mais ça comprend aussi d'autres baisses au niveau des APL, dont on ne sait pas forcément précisément ce qu'elles sont, mais dont on sait, par exemple, il y en a une qu'on connaît qui est pas très... Enfin, dont on n'a pas forcément trop entendu parler, c'est la suppression des aides au logement pour les accédants à la propriété. Donc, vous voyez quoi, aujourd'hui, même si on est propriétaire, qu'on a acheté un appartement ou une maison et qu'on rembourse notre prêt à la banque, bon, ça fait un peu comme un loyer mensuel, quoi, si vous voulez. Et du coup, on peut toucher des aides pour payer cette somme mensuelle à rembourser la banque. Eh bien, maintenant, avec cette loi, ce sera plus possible, quoi. C'est-à-dire, ceux qui en bénéficient déjà, je pense qu'ils en bénéficieront encore, mais alors toutes les nouvelles personnes qui achètent, elles n'auront plus le droit à aucune aide au logement. Donc ça concernait quand même beaucoup de personnes, et du coup, bah, ça veut dire plus vraiment... Enfin, ça veut dire, voilà, les APL seulement pour les locataires, et plus vraiment moyen d'accéder à la propriété, quoi. Si t'es pauvre et que tu as besoin d'aide, tu deviens pas propriétaire, point. Donc voilà, c'est quand même assez important, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop entendu parler. Et voilà, je crois pour la loi 2018, c'est à peu près tout. Maintenant, sur le logement, le gouvernement, bien sûr, il prévoit aussi sa politique de logement et des prochaines réformes et des prochaines lois concernant le logement. Alors, on ne sait pas encore tout ce qu'il va nous pondre, hein, évidemment, mais un des trucs dont il a parlé et dont on a un petit peu entendu parler, c'est le projet de bail mobilité. Donc, le bail mobilité, l'idée, c'est un bail qui serait de 1 à 10 mois maximum, et non renouvelable. Voilà, l'avantage pour le locataire, le seul, ce serait qu'il n'y aurait pas de caution à payer. Mais voilà, l'idée du coup serait un bail adapté aux gens qui ont besoin d'un logement pour une très courte durée, comme des stagiaires, des gens qui sont en CDD ou en formation, voilà, sur des périodes courtes. Mais en réalité, bon, ça change rien pour nous de signer un bail pour 3 ans ou pour 10 mois, en fait. Ça change rien à ta situation dans ton logement, quoi. Bon, après, le coût de la caution, j'avoue, c'est plutôt pas mal. Mais bon, voilà. Par contre, ça arrange énormément, énormément de propriétaires, a priori. C'est vraiment une demande des propriétaires depuis longtemps de pouvoir faire des bails très courts parce que, bah, tout simplement, on s'entend pas bien avec un locataire, on a un locataire qui paye mal ou qu'on considère comme, je ne sais pas moi, trop bruyant, trop sale ou que sais-je. Ben, c'est hyper pratique de se dire, de toute façon, au pire des cas, il y en a que pour 10 mois, après, ils virent, quoi. Et donc voilà, le risque avec ce bail-là, c'est que bon, on sait pas du tout comment il va s'appliquer et comment il sera encadré, etc. Et donc un des risques, ça pourrait être de le voir se généraliser. Donc imaginez si la plupart des propriétaires, ben, c'est hyper arrangeant pour eux de faire des bails comme ça, des baux comme ça. Eh ben, on risque d'avoir quasiment toutes les locations sous des bails mobilité, donc à savoir des bails précaires, quoi. Des bails, enfin, imaginez quoi, 1 à 10 mois maximum. Si tous les locataires sont obligés de déménager tous les 1 à 10 mois, enfin, c'est juste l'enfer, quoi. Donc ça, c'est un des risques avec ce bail, donc affaire à suivre. Hein. Voilà. Sinon, dans les réformes, il y a aussi les gens autour du secteur social, hébergement d'urgence, là, qui râlent un peu contre Macron, parce que lui, du coup, il a dit, bah, on va pas donner de l'argent pour construire des nouveaux hébergements d'urgence, des nouveaux foyers, etc. Plutôt, on veut mettre de l'argent pour favoriser l'accès à des logements durs, des vrais logements, etc. Donc, bon, ça peut paraître une bonne idée, hein. Mais le truc, c'est qu'en fait, du coup, il va pas prévoir, en tout cas, d'ouvrir des places, par exemple, pour le 115 et tout ça, mais il va donner de l'argent seulement, en fait, en échange d'un contrat public-privé, quoi. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, c'est ça, c'est que l'idée, c'est que les associations, elles trouvent un contrat dans le privé avec un propriétaire, elles louent par exemple un immeuble, donc c'est elles qui sont le locataire, qui sont garantes, représentantes, et ensuite, après, elles logent les gens dans les logements et c'est elles qui gèrent, bah, voyez quoi, tout quoi, l'état des lieux, tout ça, enfin voilà. Et du coup, ben, en fait, une fois qu'elles ont ce contrat-là, l'État subventionne. Au lieu de construire des logements du coup, qui seraient comme publics et de subventionner les associations, ben, finalement, l'État va donner de la thune au secteur privé, quoi. Bref, voilà, donc ça fait un peu un espèce de truc de privatisation du secteur social, quoi. Voilà, voilà. Et pour terminer sur les espèces de réformes en cours à venir, j'avais envie de parler des gens qui sont en habitat mobile aussi. Donc, habitat mobile, ça peut être, voyez, des yourtes, des caravanes, des camions aménagés, des cabanes, des mobilhomes et toutes sortes d'habitations démontables. Et du coup, ça représente quand même 1 million de personnes en France. Donc, plutôt, ce qui est prévu par le gouvernement, ce serait, vous voyez, dans les documents d'urbanisme, normalement, les communes, elles définissent des zones, etc. Et donc là, voilà, il y aurait des zones et des terrains qui seraient réservés à de l'habitat mobile et atypique. Et du coup, en dehors de ces zones-là, il n'y aurait pas le droit d'installer ce type d'habitation. Et pour les installer, en plus, il faudra que les gens remplissent une déclaration pour avoir un permis d'aménager. Donc voilà, ce sera nouveau la mise en place d'un permis d'aménager pour tout ce qui est habitat atypique et habitat mobile. Et bon, a priori, ça risque quand même de compliquer pas mal la vie des gens qui vivent dans ce type d'habitat. Et donc, pour terminer, puisqu'on parle d'habitat mobile, j'avais envie de faire un petit point actu sur les Roms, parce que donc les personnes Roms, en général, vivent en habitat mobile, souvent dans des caravanes, sur des terrains plus ou moins squattés, parce que c'est pas facile de trouver des places sur les aires réservées, etc. Enfin bref, il y a quelques temps, à la veille de la trêve hivernale, il y a eu plusieurs, enfin il y a eu une grosse vague d'expulsions de terrains de Roms à Nantes et dans d'autres villes de France. Et donc à Nantes, ça a été quand même trois terrains principalement qui ont été évacués, un à Bouguenais, un à Carquefou et un à Orvault. En tout, du coup, ça fait à peu près 250 personnes qui ont été chassées de leur terrain et de leur habitation et qui n'ont plus nulle part où poser leur caravane. Et bon, bah, évidemment, hein, parmi ces personnes-là, il y a beaucoup de personnes particulièrement vulnérables, comme des enfants, des personnes âgées, des personnes malades, des femmes enceintes. Et les évacuer du terrain qu'elles avaient trouvé pour se poser, c'est forcément... À la veille de l'hiver en plus, quoi, c'est forcément les mettre dans un état de vulnérabilité encore plus accru. Et donc voilà, faut savoir que c'est une stratégie qu'on choisit les municipalités là, parce que il y a une loi qui est passée le 27 janvier 2017, donc c'est assez récent, qui du coup fait que toutes les personnes qui sont sur de l'habitat atypique et du squat de terrain, etc. Du coup, que au niveau des expulsions, ce soit la même loi, enfin les mêmes règles qui s'appliquent que pour les maisons en dur, vous voyez, les locations, les squats, les choses comme ça. Donc ça veut dire que maintenant, les gens, les Roms, par exemple, ils peuvent bénéficier de la trêve hivernale. Ça veut dire normalement, ils n'ont pas le droit de se faire. Enfin, on n'a pas le droit de les expulser en plein hiver, donc du 1er novembre au 31 mars. Donc évidemment, on les expulse le 30 octobre, quoi. Ça paraît logique. Donc voilà, non, c'est assez aberrant, mais voilà, c'était juste pour terminer le petit point, un petit point actu pour terminer. Voilà, et je vous invite évidemment à vous renseigner sur le sujet. Donc auprès de Rome Europe, par exemple, ou sur le site nantes.indymedia.org. Hein, qui relaye toutes sortes de communiqués. Je crois que j'en ai terminé avec les réformes. Et après, je vous fais un petit point sur les mobilisations. Voilà. Merci.